Radio Grand Ciel présente Écho de ma commune, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. Cela fait maintenant un an et demi que Cédric Bouet a pris ses fonctions de sous-préfet à Nogent-le-Rotrou. Il était venu à son arrivée évoquer son parcours et ses projets pour l'arrondissement. Une seconde fois, il a expliqué ses réalisations quant à l'intercommunalité, aux collectivités locales et à la vie économique. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon de ces différents secteurs en évoquant la téléphonie mobile, France Service, la ville de Nogent-le-Rotrou, la sécurité et nous évoquerons les 100 ans de l'armistice de Nogent-le-Rotrou. Monsieur le sous-préfet, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors tout d'abord, que ressentez-vous après un an de vie dans le Perche ?
Écoutez, je ressens beaucoup de satisfaction et déjà commence à poindre une forme de sentiment de regret parce que vous savez sans doute que la durée de vie administrative des sous-préfets de Nogent-le-Rotrou, à l'instar de ce qu'on observe sur l'ensemble de la France d'ailleurs, est relativement réduite puisque c'est une moyenne de séjour de 2 à 3 ans.
Oui, c'est peu.
C'est assez peu, vous l'avez dit, je suis déjà à plus d'un an. Et donc je me dis avec finalement parfois un petit peu de tristesse que j'en ai plus derrière moi que devant moi. C'est vous dire que j'apprécie être sous-préfet du Perche Aurélien, bien entendu.
Oui, parce que c'est une région que vous ne connaissiez pas auparavant.
Je la connaissais très peu, je l'avais dit d'ailleurs quand on s'était parlé précédemment. Je l'ai découverte avec beaucoup de curiosité, mais ça c'est le propre du corps préfectoral quand il prend une affectation territoriale. Mais aussi avec beaucoup de plaisir parce que ce sont des paysages qui sont toujours aussi beaux. Moi j'ai eu plaisir à découvrir aussi le Perche en été que je n'avais pratiquement pas vu à mon arrivée l'année dernière dans l'arrondissement, qui est magnifique. Le Perche en automne, même si nous ne sommes pas très gâtés cette année par la météo, est aussi une destination très agréable.
Quand même les arbres sont très beaux en ce moment.
Les arbres sont très beaux, mais les gens sont aussi très sympathiques. Et moi je tiens à le dire, on a les paysages, mais on a aussi les percherons. Et moi j'ai beaucoup de plaisir à avoir des contacts avec les percherons dans leur diversité.
Alors revenons aux travaux qui ont été faits pendant ce laps de temps que nous avons évoqué tout à l'heure. Alors je pense en particulier à la téléphonie mobile qui a vu des travaux à peu près gigantesques, je dirais, à Nogent-le-Rotrou. Alors qu'en est-il pour l'arrondissement ? D'abord pour Nogent-le-Rotrou et pour l'arrondissement.
Alors, on a deux sujets, en fait, qui sont à distinguer, même s'il y a parfois une certaine interpénétration entre ces deux sujets. On a vraiment la question du numérique. Quand on parle du numérique, on va parler de la ressource Internet, avec une recherche permanente, maintenant, depuis quelques années, d'une amélioration des débits qui sont fournis aux utilisateurs, professionnels ou particuliers. Mmh. Et vous l'avez très bien dit, à Nogent-le-Rotrou, on a vu beaucoup de travaux qui ont été conduits ces derniers mois par ce qu'on appelle le syndicat mixte Eure-et-Loir numérique, qui est en fait l'émanation des collectivités locales de l'Eure-et-Loir, de notre département, qui se sont associés pour essayer de travailler sur cette question-là. Et nous avons la chance, sur Nogent-le-Rotrou, d'avoir une ville et une agglomération qui sont maintenant aujourd'hui fibrées, c'est-à-dire qui ont la fibre jusqu'à l'habitant et dont la commercialisation est en cours. Cette fibre-là, c'est un réseau d'initiatives.
Quand vous dites la commercialisation, publique. Ça veut dire ?
C'est-à-dire que vous ou moi allons pouvoir, et l'ensemble de vos auditeurs quand ils résident à Nogent-le-Rotrou, allons pouvoir souscrire à une offre qui nous sera proposée par un fournisseur d'accès à Internet qui nous permettra d'atteindre les niveaux de débit de la fibre optique, c'est-à-dire 100 mégas, ce qui est beaucoup par rapport à ce que l'on pouvait trouver encore assez récemment sur le secteur où on est entre 3 et 10 mégas maximum. Donc vous voyez, on fait un saut technologique qui correspond aussi aux usages qui sont ceux d'aujourd'hui, mais surtout qui seront ceux de demain.
Mais ça, c'est déjà fait.
Ça vient d'être fait sur Nogent-le-Rotrou. C'est en cours de commercialisation sur certains quartiers. La commercialisation est achevée sur d'autres. Vous voyez, pour vous donner un exemple, la sous-préfecture, les travaux sont faits depuis le premier semestre 2019, mais la commercialisation commence à peine puisque nous venons de recevoir
les propositions. Ça veut dire qu'il y a des gens maintenant à qui on le propose ou bien...
C'est-à-dire
c'est ça que je ne comprends pas trop.
C'est-à-dire que les personnes qui sont raccordées à la fibre optique vont recevoir des propositions commerciales de fournisseurs d'accès à Internet Alors évidemment, on n'est pas obligé de souscrire, hein, mais si elles sont intéressées, elles pourront le faire parce que l'infrastructure, le réseau maintenant existe. Ça n'était pas le cas avant. Et il existe parce que c'est un réseau public qui est financé par les autorités publiques, les collectivités réunies dans le syndicat que j'évoquais tout à l'heure, avec une aide extrêmement importante de l'État, près de 40 millions d'euros pour l'ensemble du département de Maine-et-Loire.
Oui, ça faut le dire, oui.
40 millions d'euros, mais aussi la région et le département.
Oui. Alors, quand même, dans certaines rues de nos gens de Rotrou, tout s'est fait en même temps, et la pose et la commercialisation.
Alors, en fonction des secteurs, moi, je vous avoue que je ne les ai pas tous en tête, on peut avoir un temps plus ou moins long qui s'écoule entre le passage des fourreaux, des gaines de fibre électrique, de fibre optique, pardon, et bien sûr, sa commercialisation par les opérateurs. Ça, ce sont des démarches qui, parfois, effectivement, prennent plus de temps dans certains quartiers que d'autres. Ce sont des explications techniques, hein, très rationnelles, mais ça peut expliquer que, finalement, d'une connaissance à une autre sur la ville, on est accès un petit peu plus vite au service. Après, il y a tout le reste du périmètre, vous en parliez de l'arrondissement, où là, les choses se font plus progressivement et vont se faire de façon mixte, contrairement à l'agglomération de Nogent, avec une ressource qui est la même qu'à Nogent, c'est-à-dire le réseau public du syndicat Eure-et-Loire numérique, donc financé par les partenaires que j'évoquais tout à l'heure. Et puis on a des zones sur lesquelles le syndicat n'a pas développé, ne peut pas développer le réseau public, et qui vont l'être par un opérateur qui a été choisi par ce syndicat.
Et pourquoi ne peut pas ?
Parce que les capacités budgétaires du syndicat ne le permettaient pas.
Ah, d'accord.
Donc à ce moment-là, pour les dernières zones à couvrir, en zone peu dense, c'est-à-dire dans la ruralité, à ce moment-là, le syndicat confie le soin à un opérateur de téléphonie qui aujourd'hui est connu, qui s'appelle SFR, de déployer de la fibre optique jusqu'à l'abonné, mais avec un calendrier qui, du coup, prend un petit peu plus de temps et qui devrait amener à des résultats au plus tard à la fin de l'année 2021.
Voilà. Ah oui.
Donc il peut y avoir là, pour le coup, un décalage qui est de, non pas de quelques mois, mais de quelques années entre certaines parties du territoire de l'arrondissement. Néanmoins, et je tiens à le souligner pour conclure sur ce sujet-là, quand on regarde, on dézoome un petit peu du Perche et même de l'Eure-et-Loire, on s'aperçoit que notre département est particulièrement bien placé sur la couverture en haut débit par rapport à ce qui peut être observé sur des territoires de France métropolitaine, y compris des territoires voisins, c'est-à-dire appartenant à la même région Centre-Val de Loire. Donc on a un vrai, j'ai envie de dire, on a presque un coup d'avance sur ce sujet-là.
Et pour notre canton ?
On est plutôt bien positionné aussi.
On est bien positionné aussi.
Après, il y a la téléphonie mobile que vous évoquiez, sur laquelle on a des différences encore assez notables de qualité
alors
de couverture.
Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie, téléphonie mobile ?
La téléphonie mobile, c'est ce qui vous permet de téléphoner avec votre appareil de type téléphone portable, quelle qu'en soit la marque d'ailleurs, et qui va vous permettre à minima de téléphoner, mais, et c'est ce qui est attendu en termes de qualité de service aujourd'hui par nos concitoyens, de pouvoir avoir accès aux ressources Internet. Et ça nécessite une bonne qualité de réseau. Et malheureusement, notamment dans la ruralité, la qualité de réseau nécessaire à avoir une navigation sur Internet depuis son téléphone portable de qualité, c'est au moins le niveau de la 4G. La 4G, vous n'en avez pas partout.
Non.
Même la 3G, d'ailleurs, pour tout dire, vous ne l'avez pas encore partout. Aujourd'hui, l'État conduit un plan assez ambitieux de déploiement de la téléphonie mobile sur des zones qui ne sont pas rentables spontanément pour les opérateurs. C'est-à-dire que nous prescrivons des sites dans lesquels, par arrêté ministériel, va peser une obligation de fourniture du service de 4G aux opérateurs que nous aurons désignés. Et ça, ce ne sont pas des décisions qui sont prises au niveau national, ce sont des décisions qui sont prises au niveau local. Et en l'occurrence, je suis chargé par la préfète de Eure-et-Loire de conduire cette politique-là pour l'ensemble du département. Nous le faisons en association étroite avec les collectivités, les représentants des maires et aussi du conseil départemental. Et nous avons prescrit 15 obligations sur l'ensemble du département de couverture en téléphonie mobile par les 4 opérateurs, sur des communes qui sinon n'auraient jamais vu ce service arriver, ou en tout cas pas dans un délai raisonnable, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'abonnés pour justifier une dépense qui parfois dépasse les 100 000 euros par site de téléphonie mobile. Donc, bien entendu, les opérateurs ont une logique qui s'entend économico-financière.
Bien sûr.
Et nous surmontons cette logique-là en ayant la capacité à imposer de l'implantation. Je resterai sur notre secteur pour que ça parle à tout le monde. C'est le cas pour la commune de Frazé. Les travaux sont terminés et la mise en service est imminente. C'est le cas pour la commune de Coudray-aux-Perches, où les travaux commenceront bientôt. Et c'est le cas aussi pour la commune de Chapelle-Royale, qui fait partie de l'arrondissement, même si elle est presque dans le Perche-Gouët, bien sûr, qui vient d'apparaître dans les obligations de couverture par les opérateurs à la demande de l'État.
Alors pourquoi ces trois communes ont été choisies ?
Parce que nous avons en fait la capacité à prescrire des obligations aux opérateurs selon un nombre de sites par année déterminé par l'administration, en l'occurrence par le ministère qui est chargé des affaires numériques.
Oui.
C'est Bercy, pour le dire simplement. Et donc nous avons des quotas annuels. Et nous faisons des choix, et choisir c'est renoncer, bien sûr. Donc nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Maintenant, je ne veux pas dresser un portrait trop pessimiste de la situation, parce que entre les initiatives de l'État, les initiatives que le conseil départemental entend conduire de son côté, et puis le déploiement qui est le déploiement spontané d'initiatives des opérateurs, le nombre de zones de mauvaise couverture va se réduire de façon notable chaque année davantage, au point que bientôt ce ne sera plus un sujet. Et là-dessus, nous avons, et quand je dis nous, j'entends les services de l'État, nous avons financé très récemment une étude qui va être conduite par ce syndicat Eure-et-Loir Numérique, dont nous parlions tout à l'heure, qui va venir nous donner une photographie très précise, commune par commune, hameau par hameau, écart par écart, de la qualité de la couverture en Eure-et-Loir. Et c'est là qu'on pourra savoir s'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour être un objectif de 100% couverture en 4G, ou si on en est proche, et il ne nous restera plus que quelques implantations ponctuelles à définir et donc à faire peser comme obligation auprès des opérateurs.
Vous pensez à quelle année pour la couverture
Si je pouvais vous répondre tout de suite, ça voudrait dire que l'étude n'est pas nécessaire. Donc je vais rester assez prudent, mais je pense que ça sera dans un délai raisonnable, c'est-à-dire, je l'espère, 3-4 ans, très grand maximum.
Ah, bah c'est une bonne nouvelle.
Je l'espère.
Alors, je pense aussi à France Service. Alors, peu de gens savent en quoi ça consiste. Depuis le 26 juillet 2019, il y a eu des maisons de service au public qu'on appelle MSAP. Elles sont mises en place. Est-ce que dans l'arrondissement, on peut dire qu'elles sont mises en place aussi ?
On peut le dire. On peut même pousser un petit cocorico pour tout vous dire, parce que nous avons des maisons de service au public dans l'arrondissement.
Ça veut dire quoi d'abord ?
Alors, il y en a trois. Alors, vous allez peut-être m'entendre utiliser le terme de MSAP, parce que moi j'ai l'habitude de cet acronyme. Ce sont donc MSAP, maisons de service au public. Ce sont des structures qui sont en général portées par des collectivités locales et qui ont vocation à permettre à un habitant, un administré, qu'on appellera un usager, de venir, en franchissant une porte, au contact d'un référent qui va être capable de l'orienter sur une série de démarches qui vont lui être utiles, qui peuvent être des démarches liées au champ social, au champ économique, au champ réglementaire. Je vais vous donner des exemples. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a besoin de se renseigner sur les prestations que peut lui fournir sa caisse d'allocation familiale, qui a besoin de renseignements pour faire un point sur son statut en qualité de demandeur d'emploi, qui a besoin de changer l'immatriculation de sa voiture, qui a besoin d'avoir des informations sur ses prestations sociales au titre de la MSA, ou bien qui a besoin d'informations sur sa retraite. Bref, il peut y avoir comme ça, c'est notre vie à tous en tant que citoyens, des questions qui sont souvent des questions assez difficiles, et qui, par leur complexité, ne permettent pas à nos administrés de s'y retrouver tout seuls, y compris lorsqu'ils consultent, s'ils sont un peu sagaces sur cette question,
c'est évident, consultant
les sites internet ou la documentation qui est mise à leur disposition. Donc on leur propose des sites dans lesquels ils vont pouvoir pousser la porte, rencontrer une personne qui va les aider à avancer dans leur réflexion, de leur démarche. Et pour ça, on a créé Maison de Service au Public, ça fait plusieurs années maintenant, mais on a décidé de les transformer, de les améliorer, et c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire on va leur donner un nouveau label qui s'appelle France Service. France Service, c'est la nouvelle appellation voulue par le chef de l'État, qui a été divulguée au début de l'été, et qui nous oblige, quand je dis nous, chacun des préfets, sous-préfets, à travailler avec le réseau existant des maisons de service au public pour essayer de les requalifier, en donnant une plus grande homogénéité sur le panier de services qu'on peut trouver quand on pousse la porte d'une maison France Service. Il ne s'agirait pas que d'un point à l'autre, on n'est pas du tout les mêmes offres de services, parce que ça serait peu lisible. Il faut renforcer la qualité de l'accueil avec plus de confidentialité, plus de professionnalisme, plus de célérité. Et puis, il faut aussi qu'on travaille sur une forme d'amélioration de la relation à l'usager. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement planter les gens devant un ordinateur, si vous me permettez cette expression. Il faut vraiment leur apporter du service, et il faut leur apporter du service humain. Il faut peut-être travailler sur des rendez-vous ou des visio-rendez-vous de façon à ce qu'on soit dans une administration et dans des opérateurs qui soient un peu incarnés. Voilà.
Si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec monsieur le sous-préfet et nous avons évoqué France Service. Alors, je reviens quelques instants sur France Service. Anne Jean-Lerotrou, comment ça se passe ?
Alors, Anne Jean-Lerotrou, les opérateurs principaux sont là, la sous-préfecture, la caisse d'allocation familiale, la CPM. La question du positionnement des maisons France Service se pose donc à l'extérieur de nos Jean-Lerotrou. On va en trouver, parce qu'elles existent déjà sous la forme des maisons de service au public, demain France Service, sur les communes de Thiron-Gardet, d'Auton du Perche et de La Loupe.
Voilà, donc ça c'est vraiment un service très intéressant, en particulier pour les petites communes.
Oui, et je vous disais, on peut pousser une forme de cocorico, parce que ce sont, sur ces trois maisons de service au public, demain France Service, ce sont des structures qui fonctionnent particulièrement bien dans le département. Elles sont dans le peloton de tête, pour le nombre de personnes qui les fréquentent et qui trouvent effectivement les réponses aux questions qu'ils se posaient en passant la porte de ces structures.
Très bien. Alors, j'en arrive maintenant à la sécurité. Vous aviez évoqué justement des problèmes la dernière fois. Je sais que vous aviez vous-même été sur la route pour voir comment ça se passait. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, sur la sécurité, notamment la sécurité routière, je suis plutôt satisfait parce que, vous l'avez dit, on a eu une attention particulière au cours de ces derniers mois à cette question, qui reste une grande cause nationale, vous le savez. Nous avons une gendarmerie qui a renforcé ses contrôles de police routière, notamment sur les moments les plus jugés les plus accidentogènes, je pense au week-end, à partir du vendredi soir, avec les sorties d'établissements festifs. Et nous avons aujourd'hui un bilan qui est plutôt satisfaisant parce que nous ne dénombrons, fort heureusement, aucune personne décédée sur la route, sur l'arrondissement, depuis le début, c'est-à-dire depuis le début 1er janvier de l'année 2019.
Ah oui, ça c'est bien quand même.
C'est très bien, ça n'est malheureusement pas le cas sur le reste du département, puisque nous avons déjà dépassé en nombre de personnes décédées sur la route notre chiffre de l'année 2018. Et vous l'avez compris, l'année n'est pas encore tout à fait finie.
Alors justement, on parle de sécurité, mais j'aimerais aussi qu'on en arrive aux violences conjugales. Maintenant, on a l'impression que les foyers ont des graves difficultés. Qu'en est-il à Neugent-le-Rotrou et dans l'arrondissement ?
Alors, la question des violences conjugales est aussi, mais depuis un temps plus récent, une grande cause nationale. Vous l'avez sans doute compris en suivant l'actualité nationale. Depuis quelques mois maintenant, le gouvernement, l'État, a souhaité s'intéresser tout particulièrement à cette problématique en faisant un constat qui est malheureusement un constat simple, c'est qu'il y a plus de 130 personnes qui sont décédées l'année dernière sous les coups de leurs conjoints au niveau national. Et parmi ces personnes-là, une immense majorité étaient des femmes. C'est un chiffre qui est absolument consternant et qui ne doit pas dissimuler le fait que nous avons un nombre beaucoup plus important de personnes victimes qui, sans heureusement être décédées, souffrent parfois de graves blessures du fait de la violence de la confrontation. Donc l'idée qui s'est faite jour au moment de la reprise de l'activité, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, ça a été de créer en fait une prise de conscience collective et de faire en sorte que dans chacun des départements, les acteurs qui peuvent d'une façon ou d'une autre apporter leur contribution à la résolution de ce problème puissent se réunir, échanger et faire des propositions les plus opérationnelles, les plus simples et les plus efficaces possibles. C'est ce que nous avons fait dans ce qu'on a appelé le Grenelle des violences conjugales. D'abord dans Eure-et-Loir, donc sous la présidence de la préfète Sophie Broca, qui vient de quitter ses fonctions,
oui,
et du procureur de la République. Et puis ensuite, de chacun des arrondissements, nous avons tenu un Grenelle d'arrondissement des violences conjugales, et vous l'avez compris, essentiellement des violences faites aux femmes, sans oublier malheureusement que les enfants, bien souvent, sont témoins des violences entre conjoints, et parfois sont eux-mêmes, si ce n'est des blessures psychologiques, parfois blessés dans le cadre des coups qui sont échangés. Donc il y a un vrai problème, et il faut qu'on travaille là-dessus. Alors vous me demandiez si c'était une préoccupation de notre secteur du Perche. La réponse est oui, malheureusement. Le phénomène des violences conjugales n'est pas réservé à des zones urbaines, difficiles, très agglomérées. C'est un phénomène qui est diffus, qui touche toutes les générations, je dis bien toutes les générations, et qui va se trouver valable dans les zones agglomérées, dans les grands centres urbains, mais aussi dans la plus profonde des ruralités. Et nous avons, en proportion au regard de la population du Perche, qu'on va pour l'arrondissement estimer à 36 000 personnes, un nombre de faits qui est particulièrement significatif pour l'Eure-et-Loir. Donc c'est un vrai sujet sur lequel il nous fallait travailler. Alors nous l'avons fait le 25 octobre en nous réunissant à mon initiative à Nogent-le-Rotrou avec les acteurs que j'évoquais tout à l'heure, que sont les associations spécialisées, associations de défense des droits des femmes, associations de protection des victimes, bien sûr les services de police et en l'occurrence ici de gendarmerie, les spécialistes que nous pouvons considérer comme ayant à un moment ou à un autre un rôle à jouer dans le signalement des situations conflictuelles, tous les services sociaux, les travailleurs sociaux, mais aussi les gens qui travaillent à l'hôpital avec le service des urgences, malheureusement parfois se retrouvent le premier confronté aux effets de la violence au sein du couple. Et nous avons essayé ensemble de tracer un certain nombre de pistes, de solutions que nous avons transmises à la préfecture, qui elle-même a agrégé les contributions de tous les grenelles d'arrondissement et a envoyé ça, vous l'avez compris, au niveau national, c'est-à-dire au secrétaire d'État chargé du droit des femmes et à l'égalité hommes-femmes.
Et à Nogent-le-Rotrou, ce problème sévit plus qu'à la campagne ou c'est l'inverse ?
Je pense qu'il est difficile de faire une comparaison entre Nogent-ville et la campagne. Je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est extrêmement diffus, c'est répandu partout.
Ouais.
Et dans toutes les classes d'âge. J'insiste bien là-dessus. On a malheureusement des violences conjugales entre des personnes qui ont plus de 80 ans. Ça se voit.
Et alors, justement, est-ce que c'est un problème qui va en augmentant ou bien on le découvre ?
Alors, on ne le découvre pas. La question, c'est, vous savez, toujours plus l'instrument de mesure est précis, plus on va avoir des quantités importantes mesurées. Aujourd'hui, il y a une préoccupation générale des acteurs, il y a une vraie mobilisation collective avec une capacité de détection qui est améliorée. Peut-être n'est-elle pas suffisante, l'actualité très récente nous l'a encore démontré, mais le nombre de faits a plutôt tendance à augmenter, mais sans doute parce que les faits de violence conjugale, effectivement, sont mieux pris en compte dans la chaîne judiciaire, notamment, qui va amener derrière à des condamnations.
Alors j'en arrive à quelque chose de beaucoup plus gai, c'est la politique de la ville à Nogent-le-Rotrou. Je parlais de tranchées, de renouvellement, eh bien je crois qu'il y a un programme qui est en gestation. Est-ce que vous en savez plus ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors j'en sais plus parce que ce programme que vous évoquez, c'est un programme qui est à l'initiative de l'État.
C'est ça.
Puisque c'est ce qu'on appelle le programme Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville a été lancée il y a quelques années maintenant par le gouvernement et avait pour ambition de permettre à des villes qui sont des villes moyennes, de par leur dimension démographique.
Ça veut dire 12 000 habitants.
On est plutôt sur un cœur de cible qui est effectivement entre 10 000 et 40 000 habitants, à peu près.
Ah oui.
C'était de permettre à ces villes-là, alors qu'ils sont le nombre d'élus était assez limité, puisqu'il y en avait, je crois, 200 qui ont été retenus, c'était de leur permettre...
Donc on a beaucoup de chance à Nogent-le-Rotrou.
On a beaucoup de chance, absolument. C'était de leur permettre de travailler sur des perspectives de développement à court, moyen, voire long terme, de façon à leur permettre de disposer des moyens qui allaient d'une façon ou d'une autre contribuer à redynamiser des villes qui assurent des rôles et des charges de centralité en termes d'équipement public, mais sans avoir toujours les ressources fiscales qui leur permettent de conduire des projets d'aménagement de grande envergure. Et donc le programme Action Cœur de Ville permet de mobiliser un nombre de partenaires, au premier rang desquels les services de l'État, et donc localement les préfets et les sous-préfets, pour venir aider les collectivités en accordant des prestations d'ingénierie, et aussi à les aider sur le principe des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire en leur accordant des subventions d'investissement. Donc Jean Leroutrou a été candidat et nous l'avons dit retenu à ce programme Action Cœur de Ville. Et depuis plusieurs années, on a un programme qui est en préparation avec des rendez-vous réguliers de travail avec les services de l'État, mais avec les opérateurs comme la Caisse des dépôts et consignations qu'on appelle la Banque des territoires, qui est le banquier des collectivités locales, pour le dire simplement.
Donc ça a commencé déjà, il y a combien de temps ?
Ça a commencé, je pense que on peut considérer aujourd'hui, nous sommes en 2019, que ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Et un certain nombre de projets vont voir le jour dans les mois et années qui arrivent, et je pense que ça va participer de la transformation de Jean Leroutrou et lui permettre d'accéder à un standing qui est celui qu'on attend d'une ville, par ailleurs capitale du Perche, Aurélien à tout le moins.
Alors, à savoir ?
Alors, il y aura du travail qui va être réalisé sur les espaces publics. Quand on parle d'espace public, très concrètement, quand on refait une place, et notamment une place centrale, ce qui fait partie des attendus du programme, on travaille sur l'espace public.
C'est là où
on se retrouve tous les jours. Ça peut être la place du 11 août, ça peut être la place Saint-Paul, effectivement. Il y a déjà du travail qui a été fait sur le château, vous le savez, avec la rénovation plus que complète.
La transformation
du musée, absolument.
C'est magnifique, hein, vraiment. D'ailleurs, on voit beaucoup de monde, il y a un changement, les touristes viennent vraiment.
Ça devient un pôle d'attractivité et c'est tout à fait précieux pour une ville comme Nogent-le-Rotrou qui est dotée d'un très beau patrimoine. Il y a un travail qui va être fait justement sur la signalétique qui est destinée à mettre en valeur les points d'intérêt de cette ville de Nogent-le-Rotrou. Il va y avoir des choses culturelles comme l'aménagement du jardin Saint-Jean. Vous avez la création d'espaces de mobilité douce, comme on dit, c'est-à-dire des pistes cyclables qui vont voir le jour, qui sont en train d'être réalisées d'ailleurs sur les bords de l'Huisne. Donc beaucoup de choses qui sont très intéressantes et qui vont donner une nouvelle image de nos gens.
Oui, un nouveau parcours aussi derrière le château, enfin pour aller de centre-ville jusqu'au château.
Oui, un parcours sans doute plus agréable puisque ça nous permettra de monter à pied du centre-ville au château sans être embêté par la circulation automobile puisque c'est traversé des beaux espaces verts qui sont en cours d'aménagement, oui, absolument, dans le parc d'Opelé.
Voilà. Alors j'en viens au centenaire de l'armistice, puisque vous avez donné beaucoup pour ce centenaire. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous tout ce qui a été fait, puisque il faut le savoir, le 11 novembre 1918, à 6h, l'armistice était signé, c'était la fin de la Première Guerre mondiale, et la ville de Nogent-le-Rotrou a voulu vraiment qu'il y ait plusieurs commémorations dans la ville. Alors, il y a eu, je le sais, un colloque. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce colloque sur le Perche en sortie de guerre, un colloque qui avait été organisé par les Amis du Perche ?
Alors, sur le colloque, effectivement, organisé par les Amis du Perche, je serai très bref parce que je n'ai pas pu assister à l'ensemble des actes du colloque, mais je salue cette initiative qui a été portée, qui a mis en valeur, avec un vrai fond scientifique, cette période très particulière de ce qui n'était pas la DER des DER, avec des actes très intéressants qu'on peut retrouver d'ailleurs, je crois, dans les cahiers du Perche.
Oui.
Et j'invite tout le monde à s'y reporter. Cette année, alors, nous avons célébré le 11 novembre 1919, un an après l'armistice. Oui. Moi, ce que j'ai dit lors des commémorations qui ont été organisées le 11 novembre 2019, 100 ans après, c'est que au-delà de la victoire, il ne fallait pas oublier que l'année 1919 a été une année charnière, extrêmement importante parce que elle a finalement façonné l'avenir et en l'occurrence toute cette période qui a conduit malheureusement au déclenchement de la deuxième déflagration mondiale que fut la deuxième guerre mondiale, avec la négociation du traité de Versailles en particulier qui n'a satisfait ni les uns ni les autres.
Oui, alors venons-en peut-être rapidement à ce qui a eu lieu. Je pense aussi au colonel Monoury qui a évoqué les associations d'anciens combattants, Patrick Auguet qui a présenté son ouvrage. Je crois aussi il y a eu quelque chose au Château Saint-Jean. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Gwenaël Hamelin a fait un discours. Il y a également eu des choses très, très modernes. Je pense au cabaret du Poilu, qui a été un concert. Et même le cinéma a vraiment travaillé pour que tous les jeunes sachent de quoi il s'agissait.
Mais moi, je vais saluer la créativité des uns et des autres parce que tout le monde s'est emparé de ce qui finalement est notre histoire commune, certes, mais c'est une histoire ancienne. Et je pense que par les différentes facettes de cette commémoration, chacun a pu trouver sa place et effectivement se rappeler, se remémorer cette période si particulière.
Eh bien, monsieur le sous-préfet, un grand merci et j'espère que vous reviendrez avant votre départ. À bientôt donc.
Au revoir.